La semaine dernière, se sont déroulées plusieurs manifestations à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Une rencontre avec des pasteurs et des prêtres du 92 chez les Mennonites à Châtenay-Malabry, une célébration œcuménique à Lambrecht, dans l'EHPAD où je vais faire des cultes régulièrement, et pour finir, une belle rencontre à Montrouge, au centre Évidence avec des catholiques, des évangéliques, pour une célébration comportant la louange, des méditations, mais aussi des échanges en groupe. Et c'est en vivant ces moments et en côtoyant des personnes différentes qui étaient d'accord de dialoguer, d'échanger, que j'ai pensé à ce texte de la tour de Babel. En effet, ce qui m'est apparu, c'est que nous étions en fait complémentaires. En étant chrétiens, à la manière catholique, protestante, évangélique, eh bien, chacun met une caractéristique particulière de sa manière de célébrer le Christ et de célébrer Dieu. Et il y avait une intervenante qui s'appelle Cathy Graber, qui a été tout à fait passionnante. Elle a remis en avant la vocation des Mennonites, qui s'engagent notamment dans la non-violence. Ils s'engagent dans la paix. Les Mennonites, c'est des protestants qui voulaient baptiser uniquement les adultes, donc ils se sont disputés avec Luther à l'époque, et ils ont même été persécutés par les luthériens. Et elle nous disait que pour elle, l'œcuménisme participe à cet engagement de non-violence et de recherche de paix. Aujourd'hui, nous sommes libres en France de pratiquer notre religion sans peur d'être persécutés. En connaissons-nous le prix ? Dans d'autres endroits du monde, ils sont persécutés, les chrétiens. L'œcuménisme est un appel à vivre la paix entre nous et dans la reconnaissance. Alors, rechercher la paix, et nous l'avons vu à cette rencontre à Montrouge où on était tous dans des petits groupes à échanger, ben d'abord, c'est apprendre à écouter l'autre. C'est construire la paix d'écouter l'autre. Et écouter l'autre, c'est écouter qu'il y a plusieurs manières de vivre sa foi. Et je n'ai pas à juger. Écouter l'autre, c'est aussi aller plus profondément dans notre réflexion personnelle, sur ce que je crois, sur ce que je suis capable d'assumer. C'est réfléchir au fondement de ma foi et ce que cela implique dans ma pratique. Et plus je serai ancrée dans ma foi, et bien plus je serai capable d'écouter l'autre. Parce que je n'aurai pas peur de la différence. Oui, je pense que les différentes confessions chrétiennes dans le monde sont complémentaires pour que chaque personne, dans sa singularité, puisse trouver le lieu où il va se sentir bien et où il va pouvoir justement prier Dieu à sa manière. Et si nous sommes complémentaires, eh bien nous ne pouvons pas ignorer l'existence des autres, parce que les autres portent quelque chose que je n'ai pas et qui peut-être me manque. J'ai pensé à cette histoire de Babel parce que la diversité est voulue par Dieu. Cette diversité, en fait, nous oblige à une chose, c'est à dialoguer. Elle met une limite à notre illusion et notre désir de toute puissance. Cette diversité fait que nous avons besoin les uns des autres. Et elle est là pour combattre toutes les tentatives d'hégémonie, de suprématie, de domination, d'entraînement dans des idéologies, dans des totalitarismes. Et avant d'entrer dans ce texte de la tour de Babel de manière un peu plus approfondie, je vais dire un mot sur le contexte. Nous sommes à la fin du début de la Genèse. C'est un peu paradoxal de dire ça, mais en fait, jusqu'au chapitre 12, ce sont des chapitres qui parlent non pas d'une histoire chronologique, mais plutôt de mythes, de mythologie, comme la création du monde, l'histoire du premier meurtre, l'histoire de Noé. Cela raconte en fait le fondement de la relation de Dieu avec les êtres humains, le pourquoi de la création, comment Dieu a voulu l'humanité et comment Dieu a voulu l'humanité appelée à la vie et que cette humanité doit composer avec sa violence et sa volonté de toute puissance. Alors voilà comment débute l'histoire de la tour de Babel. Je vous lis le premier verset dans une traduction littérale, c'est-à-dire très très proche de l'hébreu. « Voici que toute la terre une lèvre et des paroles une. Vous voyez déjà le paradoxe des paroles une. Alors, quand on connaît la Terre et la manière dont elle s'est formée, on sait bien que la diversité a été présente dès le départ, mais l'auteur de ce récit a voulu raconter le risque qu'il y a à vouloir être un. Tous sur le même moule, comme les briques que fabriquent les hommes. Comme si ces gens n'étaient qu'une seule bouche, une seule lèvre, une seule bouche. La parole de chacun n'existe plus, et donc l'identité de chacun non plus. C'est une fusion totalitaire, une pensée unique. Et de cela, Dieu ne veut pas. Cela fait écho à la tentation du serpent qui dit à l'homme et à la femme, vous serez comme des dieux. Et c'est étonnant comme aujourd'hui cette tentation se décuple avec les nouveaux moyens générés par l'humain. J'y reviendrai. Ce récit commence pourtant de manière coopérative. Les hommes, alors il n'y a que des hommes là, c'est vraiment l'homme masculin. Souvent, dans la Bible, les traductions sont fausses, elles sont injustes, parce que les hommes masculins sont souvent traduits en englobant tout le monde. Voilà. Mais vous me connaissez maintenant et j'essaie d'être un peu précise. Et là, il n'y a même pas la diversité humaine, ce ne sont que des hommes. Ils se mettent ensemble pour construire une tour qui ira jusqu'au ciel. On pourrait l'appeler un gratte-ciel. Deux fois, ils se parlent, ces hommes. Ils disent « Allons, moulons des briques ». Alors, ils prennent en effet les matériaux à leur disposition. Et ensuite, on a une explication. « Bâtissons, une ville et une tour dont la tête sera dans les cieux ». Alors, la ville, c'est le lieu où habitent les humains. Et la tour, et le ciel, pardon, les cieux, c'est le lieu où habite Dieu. C'est le lieu symbolique. Et puis, ils abordent la question du sens et se disent « Faisons-nous un nom pour que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. » Ces hommes parlent d'une seule voix. Ils veulent exister en étant tous sous un seul nom. Et la peur d'être dispersé fait écho à la peur d'être seul, d'être vulnérable. On le sait, un groupe est plus fort qu'une personne seule et on sait combien les groupes, la force du groupe est puissante, la loyauté au groupe est puissante, Alors bien sûr, je peux penser à des groupes d'adolescents qui sont amenés à se mettre en danger parfois dans des comportements mortifères. Mais il y a bien d'autres groupes, et on pourra en citer bien des groupes nombreux qui rejettent ceux qui ne pensent pas comme eux, et parfois qui veulent les tuer même. En tout cas, cela se fait, cette visibilité, par une tour qui veut aller jusqu'au ciel. Et à l'époque, en Mésopotamie, donc dans ce bassin-là, oriental, il existait des tours qu'on appelait des ziggourats. Et la plus ancienne est datée de 2200 ans avant Jésus-Christ. Et on raconte qu'il y a eu plusieurs constructions à certaines époques, et notamment une très grande qui a été construite à Babylone à peu près au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Et évidemment, on va lire du coup dans le même temps, dans ce texte, une résistance à Babylone, parce que le roi de Babylone a déporté le peuple d'Israël, justement, dans les années 589 avant Jésus-Christ, et ça sera l'exil. Donc il y a un signe de résistance à cette oppression. Mais on peut dire que le symbole de la tour a été toujours un symbole très très important pour aller à Dieu. On peut voir toutes les cathédrales qu'on a construites en France. Nous, on a habité Beauvais avec cette cathédrale qui s'est effondrée parce que franchement, elle était trop haute, c'était juste pas possible, quoi. Chacun veut bâtir la tour la plus haute du monde. Il y a des pays qui font cette compétition-là. Et j'ai repensé aussi à l'attaque des sœurs jumelles de New York en 2001. Bien sûr, il y a eu beaucoup de morts, mais ce qui était attaqué, c'était le symbole aussi de la tour, des deux tours dans ce pays quand même assez hégémonique aux États-Unis et dans le monde. Alors notre récit a un petit mot qui est assez amusant parce qu'il dit que Dieu descend. Comme pour dire, oui, vous les hommes, vous irez jamais assez haut de toute façon pour m'atteindre. Et Dieu voit cette tentation de n'être qu'un. Et ce n'est pas ainsi qu'il a voulu sa création. Dieu a voulu sa création dans la richesse de la diversité. On le voit aujourd'hui avec la biodiversité qui est en train de s'effondrer. Mais cette diversité est voulue par Dieu. Et puis entre les hommes, entre les humains, l'homme et la femme, c'est le prototype de toutes les différences possibles dans l'humanité. Rien de ce qu'ils projetteront ne leur sera inaccessible. Alors quand je lis cette phrase aujourd'hui, cela me fait un peu froid dans le dos. En effet, nous sommes à une époque où, eh bien, nous avons une seule langue universelle, l'anglais. Elle est bien pratique, évidemment, pour échanger dans des pays étrangers, mais hégémonique dans son utilisation. Combien de mots anglais viennent s'immiscer dans toutes les langues, dans nos propres langues ? Et quand Dieu brouille les langues, eh bien, il lance aux humains le défi de leur relation. Nous savons combien la langue ne sert pas simplement à nous parler, mais elle est le support de la pensée. Et donc, quelque part, elle modèle notre pensée. Quand j'ai appris le grec pendant mes études de théologie, c'était pas facile, mais ça allait encore. C'était une langue assez familière. Il y a des mots qu'on connaît. Mais quand j'ai appris l'hébreu, qui est la langue de l'Ancien Testament, donc le grec c'est le Nouveau Testament, l'hébreu l'Ancien, et en fait c'est une manière de penser tellement différente, qui s'apparente aux pensées sémitiques, très très différente de notre réflexion à l'occidentale. Alors, avec la langue anglaise, eh bien, il y a une multiplicité de coopérations dans le monde. Les chercheurs peuvent s'informer dans les domaines médicaux, informatiques, physiques, etc. Et ça peut faire avancer des bonnes causes, et tant mieux. Mais cette histoire nous rend attentifs aux risques. Parce que les humains ont réussi à créer des outils toujours plus performants. Et souvent, sous prétexte de guérir, d'améliorer nos conditions de vie, on cherche aujourd'hui à améliorer l'humain lui-même. Alors, on sait que mettre une prothèse, c'est quand même une très belle invention, parce qu'on peut remarcher. Mais commencer à manipuler le génome humain, là, ça fait imaginer qu'on n'a plus de limites. On est comme Dieu qui crée, ou qui veut créer. Et puis un outil apparaît aujourd'hui, et dont on ne connaît pas les conséquences, mais qui va à toute allure. C'est l'intelligence artificielle. Comme tous les outils, c'est évidemment à nous de nous en servir de manière intelligente. Mais aujourd'hui, on n'a pas grandi avec, donc on a encore notre intelligence qui n'a pas grandi avec, qui n'a pas été formatée par l'intelligence artificielle. Mais nos enfants, ils vont grandir avec ça. Quelle pensée ça va générer ? Quelle manière de penser la vie ça va générer ? Les programmations de ces intelligences artificielles, comme me le faisait remarquer quelqu'un, ce n'est pas des intelligences humaines, c'est artificiel, elles sont toujours artificielles, donc elles vont toujours être décidées par quelqu'un d'autre. En ce moment, eh bien, ça vient des États-Unis, donc plutôt formaté par des hommes blancs. Évidemment, on n'a pas de minorité. Donc comment est-ce que l'humanité va s'adapter à ça et va faire contre-pouvoir ? Parce que j'ai confiance dans l'humanité, il y a toujours des personnes qui font contre-pouvoir. Mais là, c'est, en tout cas, moi, c'est un peu vertigineux pour moi. Et ça me fait penser évidemment à la tour de Babel qui représente toutes les tentatives de mettre les humains sous une seule identité, une seule domination, un seul pouvoir hégémonique. Et cette tour de Babel peut aussi représenter les réseaux sociaux où on produit du même. On va toujours avoir des choses qui nous font plaisir, puisqu'il faut liker. Donc on a toujours des choses qui arrivent et qui nous font plaisir et qui sont comme notre propre pensée. On est entre soi, la pensée différente n'a pas sa place. La tour de Babel, elle peut aussi représenter des éléments plus classiques, comme le pouvoir de l'argent, devant lequel tout le monde s'incline. même aux dépens de populations qui souffrent, et même au risque de brader notre planète. On va continuer à réintroduire des pesticides. On va continuer à déforester pour l'argent. Mais elle peut aussi représenter le pouvoir des religions. Quand elles veulent imposer à tous le même moule, et je ne parlerai pas du pouvoir politique, Dieu nous lance un défi, celui d'être nous-mêmes et d'avoir le courage de résister. On n'est pas appelé à se couler dans un moule, mais plutôt à assumer sa propre identité, assumer de dire « Eh ben, tu vois, tu dis ça, moi je ne suis pas d'accord avec toi », sans se fâcher. On n'est pas obligé de s'injurier pour dire « Je ne suis pas d'accord avec toi ». Assumer notre propre identité, parce que notre propre identité, elle nous est donnée par Dieu. Nous ne nous la faisons pas nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui nous faisons un nom, mais Dieu nous appelle par notre nom, notamment à notre baptême. En Jésus-Christ, nous recevons une part de cet esprit unique de Dieu pour une diversité de dons, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Parce que Dieu a besoin de nous, il n'a que nous. Alors il nous donne des compétences différentes et il veut aussi que nous ayons besoin les uns des autres dans ces différentes compétences. Alors l'Esprit Saint est symboliquement donné à la fête de Pentecôte. Souvent on oublie ce que c'est que Pentecôte. On sait ce que c'est que Noël, Pâques à peu près, résurrection de Jésus, mais alors Pentecôte, on n'en sait rien. C'est le don de l'Esprit Saint. Et en fait, les disciples reçoivent chacun une part de l'Esprit pour qu'ensuite chaque personne entende la bonne nouvelle dans sa propre langue. C'est-à-dire que c'est la Babel inversée, Pentecôte. Vous y penserez peut-être cette année. Alors oui, nos différences nous mettent à l'épreuve de nous aimer les uns des autres. Et c'est à moi de me poser la question, mais qu'est-ce que finalement je pourrais recevoir de bon de cette personne avec qui je ne suis vraiment pas d'accord ? Et là où je suis admirative, c'est que même dans les conflits et les guerres, dans le monde, eh bien il y a des gens qui sont formés professionnellement, il y a des équipes de médiateurs qui sont au travail, des jours et des jours, parfois pendant des années, pour que les forces en présence arrivent à se parler et à se mettre d'accord. Et j'ai souvent remarqué que lorsqu'on veut faire une règle ou une loi qui englobe le plus de monde possible, et bien souvent, il y a un lieu qui résiste, un contre-exemple, une situation qui se force à nous à parler davantage. Oui, nous sommes dispersés sur la surface de la terre, mais ce n'est plus un danger. Parce que nous ne sommes pas seuls, nous savons bien que c'est difficile de continuer à parler avec nos proches, avec des personnes qu'on n'a peut-être pas envie de voir, mais nous ne sommes pas seuls. Et Dieu lui-même est descendu en Jésus-Christ pour nous éviter de vouloir monter au ciel. Ben oui, il est descendu. Et Dieu est là pour nous faire accepter nos limites humaines, sans avoir peur de disparaître pour autant. En lui, nous sommes libres et responsables. En lui, nous pouvons être, du coup, une communauté ouverte. Alors oui, disons aujourd'hui combien la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas un enfermement. C'est être libre et accompagné vers un chemin de vie où nous sommes aimés chacun et chacune personnellement. Un chemin de vie que l'on choisit d'orienter vers l'amour et l'espérance, pour que notre joie rayonne la présence de ce Dieu d'amour en Jésus-Christ. Amen.